commencer. Oui, on peut augmenter. Ouais. C'est mieux, effectivement. Ouais. Hop. Excusez-moi, je dois attendre, mais c'est ma chef, donc il faut que j'attende qu'elle s'installe. J'ai pas le droit de commencer avant, sinon. Non, elle n'a pas entendu. C'est bon. C'est bon. Donc bonjour à tous, je m'appelle Julien Devrien, je travaille à la médiathèque des Ulysses. Et avec Guillaume de Santos qui travaille à Cergy et Pierre Angot qui travaille en Draceni. On devait vous faire un atelier autour de la Wii U. Malheureusement, pour des problèmes techniques, on n'est pas en mesure de vous présenter la Wii U. Mais on pourra vous présenter d'autres choses autour du jeu vidéo en bibliothèque et on espère que ça va vous intéresser également. Du coup, comme on a dû revoir un peu le programme à la dernière minute, vous nous excuserez un petit peu si c'est un peu... Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on vous propose de commencer par une petite première demi-heure un petit peu plus théorique. Et puis après, dans la deuxième partie de l'intervention, on va essayer de jouer tous ensemble sur le même jeu avec un iPad. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va être super chouette. Alors, pourquoi venir jouer en bibliothèque ? Finalement, c'est ça, en fait, la question qu'on doit se poser. Parce que jouer aux jeux vidéo, moi, le meilleur endroit pour moi où je joue aux jeux vidéo, c'est dans mon salon. Je suis sur mon canapé, j'ai mon grand écran plat, etc. J'ai des super graphismes et je suis peinard, il n'y a personne pour me déranger, il n'y a personne pour me faire chut, vous faites trop de bruit, etc. Donc voilà, finalement, la question qu'on doit se poser lorsqu'on veut essayer de mettre du jeu vidéo en bibliothèque, finalement, c'est pourquoi est-ce que des gens viendraient dans notre établissement pour venir y jouer, alors qu'ils peut-être sont déjà équipés, etc., par ailleurs, et finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour eux à venir comme ça. Moi, de formation, je suis animateur socioculturel spécialisé dans les TIC, animateur multimédia. Et avant de venir travailler en bibliothèque, j'avais des collègues donc, du coup, qui étaient plutôt typés animateurs sportifs, etc. Et finalement, la question qu'on pouvait se poser, la question qu'on se pose par rapport aux jeux vidéo en bibliothèque, on peut se poser également la même chose par rapport au football. Finalement, jouer au foot, il n'y a rien de plus facile. Il faut un ballon. Un ballon, ça ne coûte pas cher. Une dizaine d'euros, vous trouvez un ballon. Pour faire des buts, il vous faut deux manteaux, vous les mettez par terre. Vous trouvez 3-4 potes et ça y est, vous êtes parti, vous pouvez jouer au foot. Et on peut jouer au foot dans la rue. Pourtant, on va trouver des animateurs et lorsque les animateurs sportifs vont proposer une animation football, ils vont avoir plein de jeunes qui vont venir jouer. Parce que là, la différence que vous voyez entre ces deux images, c'est que dans la première image, on joue dans la rue, etc. Dans la deuxième image, qu'est-ce qu'on a de plus ? On a des maillots, on a des protège-tibias, on a des crampons, on a un monsieur en bleu ici qui est l'arbitre. Donc il va définir des règles. Sur notre terrain, on a des lignes par terre également. Vous voyez derrière, il y a un monsieur avec un truc jaune là derrière qui doit très certainement être un entraîneur. Mais également, on a un public. Le public qui prend la photo, qui doit très certainement être l'un des parents qui vient voir ses enfants jouer. Et bien tout ça, ça change complètement l'expérience de jeu. D'un côté, on va jouer vraiment, on va être juste dans le jeu, voilà. On va être dans le play, tandis que de l'autre côté, on va être dans le game. Alors, c'est difficile à traduire, je m'excuse. Hein. Mais d'un côté, on a un jeu très, très libre. Finalement, même si on ne compte pas les points, ce n'est pas très, très grave. Tandis que de l'autre, on a un enjeu, on compte déjà le score. On va avoir un gagnant, un perdant derrière. Et puis surtout, on va peut-être avoir un objectif qui va dépasser le simple match. On va peut-être avoir un tournoi, c'est peut-être un championnat, donc du coup, il va falloir qu'on s'inscrive là-dessus dans une temporalité plus. Donc en fait, ce que vous allez proposer lorsque vous allez faire du jeu dans votre bibliothèque, c'est que vous allez proposer une expérience de jeu différente. Et c'est là-dessus, en fait, que vous allez vous différencier. C'est-à-dire que lorsque vous allez proposer du jeu vidéo en bibliothèque, même si vous la proposez, par exemple, sous forme de tournoi, vous allez proposer donc un cadre dans lequel vous allez inscrire, donc il y a un temps donné pour faire le meilleur temps, le meilleur score, etc. On va voir le bibliothécaire ou l'animateur qui va être là derrière, qui va poser les règles également, qui va dire dans quelles conditions on va jouer. Et donc du coup, vous allez proposer toute une expérience de jeu complètement différente. Et les joueurs vont avoir un public, ce qu'ils n'ont pas d'habitude, parce que moi, quand je suis tout seul chez moi en train de jouer, enfin, j'ai personne qui va regarder par-dessus mon épaule en train de jouer. Et rien que ça peut vous mettre une petite pression supplémentaire quand vous jouez. Voilà. On va peut-être avoir des gens qui vont vous encourager, etc., etc. Après, si vous arrivez jusque dans les phases finales du tournoi, il y a une pression en plus parce que vous avez tout un, Voilà, vous avez tout un enjeu un peu plus grand que la simple partie qui va venir. Alors, c'est Scott Nicholson, un bibliothécaire américain qui a beaucoup travaillé sur la question du jeu en bibliothèque, pas seulement le jeu vidéo, hein, mais vraiment la question du jeu, et qui résume très bien ça. L'important dans une animation jeu en bibliothèque, c'est pas le jeu en lui-même qui est important, ça va être l'expérience de jeu que vous allez proposer. C'est le bouquin qu'il a écrit, le bouquin est disponible uniquement en anglais. Mais enfin voilà, c'est pas du Shakespeare. Hein, vous allez, c'est assez simple à lire. Donc du coup, lorsque vous allez proposer une animation jeu vidéo en bibliothèque, la première chose qui va être importante, ça va être de définir vos objectifs. Alors vos objectifs, ça peut être des choses très simples. Hein, ça peut être faire venir des gens dans la bibliothèque. Ça peut être ou après, ça peut être des choses un peu plus complexes, enfin, un peu plus ambitieuses autour des notions de patrimoine, autour des notions autour d'un genre littéraire, etc., etc. Après, là, vous pouvez démultiplier. Mais ça va dépendre de vos objectifs. Et vos objectifs, de toute façon, ils vont découler des missions de votre bibliothèque, voilà, de votre projet d'établissement, etc. Donc là, après, vous déroulez. Une fois que vos objectifs sont bien clairs, à ce moment-là, ensuite, vous allez choisir votre expérience de jeu. Alors, vous avez des jeux qui vont plutôt être orientés autour de la narration. Je pense à tout ce qui est jeux de rôle, des jeux comme Zelda par exemple, où là on a vraiment une histoire, enfin voilà, on est plongé dans des jeux avec plusieurs heures, etc. C'est vraiment toute une aventure. Des jeux plus typés action, je pense à des jeux comme FIFA, des simulations de foot par exemple, ou même des jeux de combat, voilà, avec des parties très très rapides. Après, vous pouvez avoir également des expériences de jeux typées autour de la stratégie, donc des jeux par exemple comme StarCraft où vous allez devoir diriger deux armées l'une contre l'autre, etc., etc. Et une fois que vous avez défini vos objectifs et votre expérience de jeu désirée, ensuite seulement vous pouvez choisir votre jeu. Voilà. Donc faut éviter de tomber dans ce piège qui va dire ah, parce qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti, j'ai vraiment envie de proposer ce jeu-là, et sans avoir défini auparavant vos objectifs et l'expérience de jeu désirée. Il faut vraiment découler comme ça, et à partir de ce moment-là, ben, vous avez déjà votre argumentaire qui est là, tout prêt, et vous allez mieux défendre votre projet de jeu vidéo en bibliothèque. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là auparavant, forcément, il y a de grandes chances pour que vous vous fassiez refouler par vos élus, par votre hiérarchie, parce que justement, vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas d'argument tout prêt. En passant par cette technique-là, du coup, bah, tout simplement, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez exactement ce que vous voulez, et du coup, vous pouvez mieux le défendre. Voilà. Et finalement, le jeu vidéo, bah, c'est une animation comme les autres. C'est juste un outil en plus. Tout ce boulot-là, vous le faites déjà lorsque vous faites des animations contes en bibliothèque. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une animation? Est-ce que vous voulez un conte pour à la fois les parents et les enfants? Est-ce que vous voulez un conte uniquement pour les enfants? Uniquement pour les parents? Voilà, donc du coup, tout ça, bah, vous allez faire ce choix-là en fonction de vos objectifs. Après, vous allez faire, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous allez choisir un conte ou une compagnie qui va répondre à ces objectifs, qui sera capable de mener une animation autour de ces objectifs. Et après, seulement en dernier, vous allez demander à la compagnie ou au compteur, bah, qu'est-ce que vous avez comme compte qui vont répondre du coup à tout ça derrière. Voilà, donc en fait, c'est exactement la même démarche que vous allez adopter, sauf que là, vous allez adopter sur le jeu vidéo. Voilà. C'est bon pour ça? Oui? Vous me dites, hein, sinon. Voilà, mais maintenant, je vais, après ce petit temps un petit peu théorique, je vais laisser mes collègues se présenter un peu plus et puis. Ils vont vous raconter ce qu'ils font ou ce qu'ils ont prévu de faire bientôt pour le jeu vidéo en bibliothèque. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
Donc moi je me présente, Pierre Angot, donc du réseau des médiathèques Andracénie. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la région autour de Draguignan. C'est pas à côté, c'est pas un petit pays de Tintin. Hein. Le penser. Moi, je suis, donc d'après ce que disait Julien, dans la phase définition des objectifs. On est en train de mettre en place tout un tas d'éléments, de ressources numériques et d'amener tout ça chez nous. Donc, je suis vraiment dans la définition des objectifs. Je vais proposer des jeux vidéo, mais pourquoi faire? Pas juste pour mettre une console et puis voilà, aller jouer, amusez-vous dans votre coin, etc. On va essayer de faire et de construire des choses en lien avec les collections. Déjà, et aussi vers d'autres publics qui normalement ne sont pas pas les publics qu'on pense être les jeux vidéo, enfin, qu'on pense être intéressés par les jeux vidéo. Par exemple, à destination des personnes âgées ou hors les murs, notamment des publics empêchés dans les hôpitaux, par exemple. On peut amener des animations aussi là-bas. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à vous dire, moi, là-dessus. C'est pour ça que j'ai grillé la politesse à Guillaume. On est vraiment dans la phase de réflexion, etc. Et du coup, mais je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure, si vous en avez aussi.
Donc, moi, c'est Guillaume Dos Santos, du réseau des médiathèques de Cergy, en région parisienne. Le jeu vidéo à Cergy existe depuis 2 ans. Il est présent sous la forme d'ateliers qu'on propose régulièrement à nos usagers. On choisit un jeu, donc comme l'a expliqué Julien, sur différents critères. Et on leur montre comment ça se passe et on joue ensemble. J'ai aussi réorganisé des événements qui sont construits sur la durée, un festival qu'on a appelé Cergy Play, vraiment basé sur le jeu vidéo en bibliothèque, avec des conférences, une soirée spéciale, un concert de musique de jeu et des consoles en libre accès. À ce titre, je travaille également avec l'association emo5.com, qui est une association qui a pour but la conservation et la promotion du patrimoine vidéoludique et logiciel, et qui donc à ce titre va proposer des expositions, des interventions dans toute la France. On travaille au sein de l'association Emo5 sur un programme qui s'appelle le programme médiathèque, dont le site web sera en ligne bientôt, qui vous proposera des fiches pratiques vraiment à destination de vous les professionnels sur « je veux acheter du jeu vidéo en bibliothèque, comment ça se passe ?»« Je dois passer un marché public, quels sont les fournisseurs susceptibles de me répondre ?»« Quels sont les budgets auxquels je dois m'attendre ?» À quoi ça ressemble un espace dans lequel on fait du jeu vidéo? Qu'est-ce qui se fait dans les différentes médiathèques? Si moi je proposais un espace de consultation, à quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'il faut une salle absolument cloisonnée, loin du reste? Ou au contraire, est-ce qu'il faut que ce soit un îlot central dans la médiathèque où on entend de tout ce qui se passe à côté? Voilà, donc au sein des médiathèques de Cergy, on a également mis en place de nombreux partenariats avec les services de la ville. Avec le service des sports, notamment, on a toute une politique orientée sur la culture et le sport au sein de la ville, mais aussi à destination des maisons de quartier. Donc ça s'est concrétisé avec des soirées jeux vidéo qu'on a organisées vraiment au sein des maisons de quartier, où nous, on s'est déplacé dans le cadre de Bibliothèque hors les murs. Donc l'après-midi, c'était Bibliothèque hors les murs classique, et le soir, c'était jeux vidéo dans la maison de quartier. Voilà, je vais laisser Julien représenter le petit jeu qu'il a choisi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour plus tard.
Vous avez les questions d'abord? Les questions d'abord?
Bon, les questions d'abord?
Précision? Non, personne.
Merveilleux.
Ah, ben voilà, une question. C'est bon, maintenant. Alors, là, je n'ai pas présenté plus en détail, mais en fait, c'est vraiment, par exemple, sur du jeu vidéo un peu plus typé, par exemple, la notion où il y a une catégorie, en fait, on pourrait... C'est une manière, en fait, de classer les jeux. Parce qu'en termes, lorsque vous êtes... Si vous n'êtes pas joueur, et si vous entendez un joueur vous parler, il va vous parler de RPG, il va vous parler de MMORPG, il va vous parler de STR, etc. Il va vous parler de MOBA. Enfin, on s'y perd très très vite, en fait, finalement. C'est plein d'acronymes, etc. C'est compliqué. Là, l'idée, c'est d'avoir un outil, en fait, qui permette justement de classer un petit peu ces jeux vidéo, vraiment en fonction de l'expérience qu'ils apportent. Donc, par exemple, un jeu de savoir, c'est typiquement le jeu sur lequel on va faire appel au savoir, au savoir des gens, mais pas un savoir qui est lié au jeu en lui-même. Typiquement, c'est le Trivial Pursuit, par exemple. Donc, c'est des jeux de questions-réponses. Donc là, c'est des connaissances que les gens vont mobiliser, mais qu'ils ont d'abord. Et après, on va pouvoir les réinvestir dans le jeu. Et typiquement, ce genre de jeu, ça fonctionne très, très bien, justement, sur des animations intergénérationnelles, parce que on peut faire à la fois jouer et des plus vieux et des plus jeunes. Et puis voilà, donc on peut arriver à mélanger un petit peu tout ça. C'était à la médiathèque d'Alfortville, ils avaient des jeux. Et puis, ils me disaient qu'en fait, l'un des jeux qui sortait le mieux, c'était « Question pour un champion ». Et pourtant, Question pour un champion, ça fait rêver personne, mais pourtant, c'est l'un des jeux qui marche le mieux en animation. Parce que d'un côté, vous avez les jeunes qui ont envie de jouer aux jeux vidéo, qui voient vraiment le côté jeux vidéo. puis après un public un peu plus adulte, peut-être un peu plus éloigné du jeu vidéo, mais qui voit juste, enfin, qui est capable de répondre aux questions, etc. Donc du coup, c'est, enfin voilà, ça fonctionnait très bien. Si vous avez été animateur en centre de vacances, typiquement, c'est les soirées jeux plateau télé où tout le monde peut répondre aux questions, enfin voilà, ce genre de choses. Après, en jeu typé, hein, peut-être un peu plus action, tout ce qui est jeu de foot ou jeu de combat, là, effectivement, on va s'adresser peut-être à un public un peu plus joueur, mais on est sur des parties qui sont très courtes, où on va toucher un public adolescent peut-être beaucoup plus rapidement aussi, parce que voilà, c'est le jeu, c'est le genre de jeu qu'ils affectionnent particulièrement, mais pas que. Hein. Après, enfin là, je l'ai pas montré, mais la moyenne d'âge d'un joueur, elle est aux alentours de 35 ans. Vous avez 52% de joueurs qui sont des joueuses. Vous avez également... Non, mais voilà, c'est... après, il faut aussi casser un petit peu l'image du joueur de jeu vidéo. Un joueur de jeu vidéo, si vous regardez les stats, c'est loin d'être un adolescent, un adolescent mâle. Voilà. Enfin, voilà, plutôt, la majorité, donc, c'est des filles. La majorité sont majeures. Enfin, je crois qu'il n'y a que 20% de joueurs qui ont moins de 18 ans. Enfin, voilà, donc, du coup... Il faut aussi un peu casser cette image-là du jeu vidéo uniquement pour un public adolescent. Ça peut toucher, ça touche même un public beaucoup plus large. Voilà. Alors je vois des mots dubitatifs.
Mais juste un truc, si vous avez joué au petit jeu de serpent, vous savez, sur les téléphones portables, c'est du jeu vidéo, tout simple. Donc vous avez tous joué au moins une fois à ça. Vous êtes des joueurs.
Voilà. La grande tendance du jeu vidéo ces dernières années, c'est le jeu vidéo sur Facebook. C'est le jeu vidéo sur téléphone portable. C'est ce que disait Pierre. C'est le serpent, c'est le jeu, le Candy Crush, là, qu'on voit tout le temps sur Facebook. On doit aligner trois bonbons de la même couleur pour faire disparaître les trois bonbons, etc. C'est vraiment le jeu, alors, qu'on appelle dans le jargon le jeu casual, c'est-à-dire le jeu familial, qui est souvent décrié par les joueurs purs et durs comme étant un jeu facile et qui n'est pas intéressant. Sauf qu'on se rend compte que justement, c'est ça qui est le plus plébiscité par le grand public. Que le jeu sur Facebook, ça représentait une part vraiment importante du jeu vidéo sur ces dernières années. Et c'est pas innocent si les meilleures ventes d'applications sur téléphone, c'est des petits jeux et pas des applications plus sérieuses comme les transports en commun ou etc.
Et après, juste pour compléter aussi, enfin pour essayer de casser un peu cette image, c'est que souvent on voit aussi quand on parle de jeux vidéo, on a en tête des jeux de tir à la première personne, de type Call of Duty ou même PES, etc., qui clairement visent, eux, peut-être un public adolescent. Mais de la même manière que vous avez des films blockbusters AAA qui ne sont pas très intéressants, enfin voilà, vous avez également des films d'auteur, mais dans le jeu vidéo, c'est pareil. Vous avez également des jeux blockbusters, et puis après, vous avez des jeux qu'on pourrait qualifier d'auteur, qu'on peut qualifier d'auteur, et qui s'adressent peut-être à un public voilà, différent. Voilà, donc c'est aussi une des missions de bibliothèque de montrer un petit peu la diversité de ce qui existe sur tous les supports. Et là, pour le jeu vidéo, là, pour le coup, il y a un gros boulot à faire encore là-dessus.
D'ailleurs, sur le jeu vidéo indépendant, une des meilleures ventes de jeux vidéo de tous les temps, c'est un jeu vidéo indépendant. C'est un jeu qui s'appelle Minecraft, qui a été créé par des indépendants suédois, par un créateur qui s'appelle Marcus Persson, qui a commencé à créer ça tout seul chez lui. Et il en est à 100 millions d'unités vendues dans le monde entier. C'est le phénomène jeu vidéo des dernières années et c'est une des plus grosses ventes de jeux vidéo de tous les temps.
Oui. Oh, on n'entend pas. Ah, je suis là.
Alors, je recommence. Philippe Collomb de la BPI. Moi, j'avais une question sur les licences et la légalité de faire des animations vidéo, avec des jeux vidéo en bibliothèque, puisque généralement, la licence prévoit que le jeu est prévu pour un usage dans le cercle familial et que, donc voilà, clairement, dans un espace public, même si c'est avec des visées non commerciales, on sort des termes stricts de la licence. Donc j'aimerais savoir si on a avancé, si on a trouvé des solutions, ou on est toujours sur un mode, on le fait, et puis on verra bien ce qui va se passer.
Alors, il n'y a pas encore eu de solution miracle trouvée avec les éditeurs. On distingue pour le moment deux grands cas de figure. La consultation sur place, c'est-à-dire vous achetez une console, Vous achetez un jeu vidéo, vous le mettez en place dans votre espace. Au niveau légal, on va dire que c'est toléré. C'est pas, y a aucune législation qui indique clairement si vous voulez faire une partie de Mario Kart dans votre bibliothèque, vous devez payer une licence à Nintendo. Pour le prêt de jeux vidéo, alors on se rapproche du code de la propriété intellectuelle qui dit que toute location doit se faire avec accord des ayants droit. Le texte de loi précisant location et non pas prêt, certaines bibliothèques, je pense notamment à l'Astrolabe de Melun, La Rochelle, je crois...
Chartres.
Ont décidé de dire, eh ben ma foi, on va faire comme s'ils nous donnaient le droit, et si jamais ils nous font une réflexion, eh ben on enlèvera. Je crois que Chartres, ça fait un an et demi qu'ils ont mis ça en place, ils n'ont toujours pas eu de retour de la part des éditeurs. Et pour compléter la réponse, certains fournisseurs, typiquement les fournisseurs de DVD, RDM, CVS, qui commencent à faire de la vente de jeux vidéo, donc à destination des collectivités, proposent des tarifs supérieurs à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution. Malheureusement, quand on discute un petit peu avec eux et quand on leur demande comment est-ce que vous expliquez la différence de prix qui va jusqu'à plus 50% par rapport à ce qui est vendu à la FNAC, ils sont malheureusement parfois dans l'incapacité de nous donner une réponse correcte.
Oui, je confirme ce que tu dis, Guillaume. Lionel Hujol, médiathèque du Pays de Romans, nous mettons au prêt aussi des jeux de vidéo de console depuis à peu près un an et demi. Effectivement, il y a le flou juridique, enfin, bien que la notion de flou juridique, il n'y a jamais de vide juridique, mais peu importe, aujourd'hui on ne nous l'interdit pas et en même temps on ne l'autorise pas. Alors, l'élément que je voulais rajouter, c'était qu'aujourd'hui, la question qui se pose avec le jeu vidéo, mais qui se pose aussi avec plein de choses, hein, je prends le cas des applications que l'on peut mettre sur une tablette, par exemple, où on est sur des accords B2C, absolument pas, enfin, business, à usage personnel, non pas à usage collectif, pour qu'on parle plus clairement. La mise en place d'un service tel que le prêt de jeux vidéo ou bien autour des tablettes, il faut faire intégrer auprès des tutelles une notion de prise de risque. C'est extrêmement important parce qu'il faut faire comprendre que, certes, aujourd'hui, il y a une fragilité juridique autour de cela. C'est soit on attend qu'il y ait quelque chose qui soit clarifié, et à mon avis, le train va passer, et lorsqu'on dira on ira, il n'y aura plus de train qui passera, donc c'est fait. Soit alors on intègre l'idée qu'il y a effectivement une prise de risque, et nous à Romans, on a fait exactement comme Chartres, etc. On l'a bien fait intégrer l'idée qu'on met en place ce service, mais que là derrière, il y avait la possibilité qu'effectivement un jour, les éditeurs se retournent vers nous pour nous dire voilà. Donc on a clarifié tout de suite la prise de risque, ce qui est loin d'être simple, hein, parce qu'on peut avoir des collectivités, des tutelles qui vous disent il est hors de question que je puisse là-dessus. Mais nous, on n'a pas voulu s'engager sur un service en se disant on dit rien et puis on y va et puis on verra bien. Il a fallu tout de suite intégrer cette notion de prise de risque. Mais on ne l'a pas associé qu'aux jeux vidéo. On l'a associé sur tout le programme numérique qu'on mettait en place, c'est-à-dire aussi les tablettes, puisque le jeu vidéo sur tablette est intégré. Voilà, donc il y avait cette notion-là qui était très importante, de, tout simplement de faire intégrer cette notion de prise de risque. Elle est de plus en plus présente avec l'émergence des outils numériques. Puis j'avais un deuxième élément, oui, c'était l'achat des jeux vidéo qui sont surtaxés. On a posé effectivement la question à cette plateforme en leur demandant de pourquoi est-ce que vous avez les autorisations des éditeurs, etc. Ils ne nous donnent aucune réponse. Donc nous, on a fait le choix de faire travailler un commerce local qui à la fois nous vend les jeux et on en achète même d'occasion. Donc ça nous permet d'avoir même une collection qui est beaucoup plus importante.
Alors, pour compléter, donc, la consultation sur place, ça se fait aussi beaucoup dans les commerces, tout simplement. Donc, après, au bout d'un moment, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et à la limite, des jeux vidéo, on peut les tester en plein dans les boutiques. Et voilà, donc bon, y a ça. Ensuite, il faut aussi différencier la position des éditeurs qui, eux, ils veulent empêcher le prêt parce que pour eux, c'est aussi un manque à gagner. Voilà, donc ils sont. D'ailleurs, on le voit avec l'arrivée des prochaines consoles. où ils essaient de contrôler un maximum le marché de l'occasion. Donc du coup, empêcher la revente de jeux, etc. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus prêter le jeu non plus. Donc même si sur les prochaines consoles, je pense à la prochaine Xbox, je ne pourrais même pas prêter mon jeu à un ami. Donc si moi, je ne peux pas prêter mon jeu à un ami, une bibliothèque ne pourra pas non plus le prêter. Donc malheureusement, je pense que la question, elle va se régler de manière technique et de manière assez brutale pour nous, et on va souffrir clairement sur cette question-là. Et donc du coup, ensuite, pour différencier également, il y a les éditeurs d'un côté, on a aussi les développeurs qui, eux, voient tout à fait l'intérêt du jeu vidéo en bibliothèque parce que ça leur donne plus de visibilité pour leur jeu et sur un temps plus long. Un jeu vidéo en boutique, vous le voyez, il a une durée de vie à peu près de 15 jours avant d'être remplacé par une nouveauté qui va arriver très très vite et ainsi de suite. Donc si le jeu s'est pas bien vendu pendant cette période où il était en haut des rayonnages, après on n'entend quasiment plus parler. Donc le jeu vidéo en bibliothèque, c'est aussi cette possibilité pour les créateurs de remettre en avant des jeux, même qui ont 6 mois, mais mine de rien, même 6 mois dans le jeu vidéo, c'est déjà assez long. Donc voilà, donc il faut se rapprocher également, n'hésitez pas à vous rapprocher des développeurs hein, qui voient vraiment l'intérêt du jeu vidéo en bibliothèque et qui pourraient, sera à même de venir montrer aussi leurs jeux dans vos équipes, dans vos équipements.
D'ailleurs, pour compléter sur les éditeurs indépendants, ils sont vraiment nombreux en France, les éditeurs indépendants. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a le Syndicat national du jeu vidéo qui tient une liste de tous les studios qui développent du jeu vidéo. Et il y a une association professionnelle qui s'appelle Capital Games, qui est une association professionnelle de développeurs de jeux vidéo en région parisienne. Donc eux, ils ont les contacts, ils ont le carnet d'adresses pour vous mettre en relation avec les producteurs directement, les studios, pardon.
Oui, bonjour. J'avais deux questions différentes. La première, c'était par rapport à la dématérialisation du jeu vidéo, qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des plateformes ou une plateforme dominante qui propose des jeux vidéo, mais à acheter en ligne. Et donc, ils sont complètement dissociés du support physique. Et en gros, ça aboutit à la même chose que ce que vous disiez sur le fait que je ne suis plus vraiment propriétaire d'un jeu, mais d'une licence, et que je ne peux plus en disposer comme je l'entends, le prêter, le revendre, etc. Donc, est-ce que ça a déjà été abordé en bibliothèque? Est-ce qu'il y a des collectivités qui ont acheté des jeux vidéo sur Steam ou sur d'autres plateformes de ce type? Et puis, la deuxième question, c'était sur votre expérience de développement de jeux vidéo en bibliothèque. Est-ce que vous avez beaucoup parlé de notion de partie, de durée? Est-ce que vous avez aussi fait des choses autour de jeux qui demandent un temps d'investissement beaucoup plus long sur des jeux de gestion, sur des jeux de rôle, qui demandent un investissement plusieurs dizaines d'heures pour pouvoir être un petit peu exploré? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être abordé en bibliothèque?
Alors, sur la première question par rapport à Steam, donc Steam, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une plateforme qui permet que vous installez sur votre ordinateur. Et à travers cette application, vous pouvez acheter des jeux vidéo, souvent jusqu'à 30, voire 40% moins cher, voire même des fois sur certaines promos exceptionnelles, 70%. Donc du coup, c'est une plateforme qui est très prisée parce que ça permet d'avoir des jeux pour vraiment pas cher. Maintenant, effectivement, c'est pensé pour un usage à titre personnel et pas dans le cadre d'un usage collectif. Ceci étant, Steam a une offre qui est adressée au cybercafé et auquel les bibliothèques peuvent tout à fait souscrire. Alors, je crois que de mémoire, mais ça vérifie, hein, on doit être à quelque chose entre 7 ou 9 euros par poste, par mois. Hein. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est une offre bookée. Donc, c'est-à-dire que vous payez, voilà, mais le jour où vous voulez accéder à un jeu qui ne fait pas partie de l'offre bookée, ben, vous êtes dedans, quoi. Donc, voilà, donc c'est le problème de l'offre bookée, donc faut voir ça. Ensuite, sur la deuxième question... Ah, vas-y.
J'avais vu passer aussi par rapport à Steam, mais je ne sais pas si le truc a abouti, je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi, une offre plus à destination des écoles ou des milieux éducatifs. Et peut-être qu'on a moyen de se greffer là-dessus aussi. Voilà. Mais je n'ai pas revu d'éléments passer dessus.
Alors, cette offre, elle est essentiellement à destination, enfin, d'après ce que Steam présente, à destination des universités, avec vraiment un bouquet, pour le coup, beaucoup plus réduit de jeux, parce que ce sont les jeux qui ont été développés par Valve, qui est le studio qui possède Steam. Donc c'est un catalogue d'une petite dizaine de jeux, si ma mémoire est bonne, avec par contre en plus des outils de développement de jeux et des outils vraiment de création de contenu propre. Donc c'est plus à destination, pour revoir la deuxième partie, sur des projets peut-être plus longs, sur de la création de contenu avec effectivement de la prise en main un peu plus longue. Mais effectivement, oui, le catalogue pour cette offre est vraiment beaucoup plus réduit.
Et je viens de penser à un point qu'on n'a pas abordé aussi, qu'on aurait pu voir sur une autre question. Il y a Karel aussi qui a monté un groupe pour les jeux vidéo. Et peut-être qu'en se rapprochant, ou Karel peut peut-être voir et se rapprocher de Steam pour essayer de proposer une offre potable à destination des bibliothèques.
Oui. On va.
Juste une petite précision par rapport à Karel, puisque l'association Karel a eu sa première assemblée générale juste avant le congrès ABF, donc c'était mercredi dernier. Et effectivement, depuis, l'association existe depuis quand même un an, et il y avait une commission qui planchait déjà sur le livre numérique. Et lors de l'assemblée générale, donc, a été décidée la constitution d'un groupe jeux vidéo et également la constitution d'un groupe autour de la musique et du cinéma et de l'image. Donc, effectivement, ça va se mettre en place dans les prochains mois. Et effectivement, tout ce qui concerne cet aspect négociation, ça sera bien évidemment à l'ordre du jour des travaux de cette commission qui souhaite effectivement faire avancer les choses dans ce domaine-là.
Après, sur la deuxième question, donc, qui concernait des jeux qui demandent un investissement plus long, en fait, il y a un problème qui arrive assez vite, c'est la question de la gestion des sauvegardes, qui sur PC encore ça peut se gérer assez facilement, enfin avec du temps, enfin, on a plus de place. Sur console, assez souvent on a un nombre limité aussi de sauvegardes, de places de sauvegarde, donc c'est là où ça va devenir compliqué. Moi après j'ai pas vu d'expérience là-dessus autour de ces jeux-là en bibliothèque. Parce que justement, à cause de ce temps-là, maintenant, effectivement, c'est compliqué de... En même temps, c'est dommage de passer à côté de ces jeux-là, justement. Après, il y a une piste à explorer, c'est au niveau de tout ce qui est des démos. Les démos, c'est un moyen de pouvoir... On peut les télécharger le plus souvent gratuitement, directement sur les consoles. Et du coup, c'est un moyen aussi de mettre à disposition une partie des jeux sur un temps plus long. En général, une démo, ça dure une heure et demie, grand max. Donc du coup, c'est plus facile. Et ça permet déjà au moins de montrer le jeu. Mais effectivement, ces jeux-là, plus clairement, il faudrait pouvoir arriver à les prêter. Oui. Je ne sais pas si tu as une question là-dessus.
Pour compléter également, je pense que des jeux qui demandent beaucoup plus de prise en main ou qui ont des objectifs plus sur le long terme, je pense que c'est des choses qui sont faisables. Alors, j'ai essayé de mettre en place, mais que je n'ai pas encore réussi, plus sous la forme de partenariats avec soit d'autres services de la ville, typiquement les maisons de quartier, qui, eux, ont déjà un public captif. Et donc, il y a possibilité de mettre des choses en place avec eux pour avoir un public qui reviendra régulièrement, soit à destination des primaires ou du collège-lycée, mais avec des projets béton et derrière des instituteurs ou des professeurs motivés qui sont d'accord pour s'investir sur 2 heures, 3 heures par semaine sur un projet de 5-6 séances.
Moi, j'avais une question pour toi. Au début, tu as dit qu'il fallait faire au possible du lien entre les jeux vidéo et nos collections actuelles.
J'ai pas dit ça.
T'as pas dit ça ?
Non.
T'as pas dit collection ?
J'ai dit collection.
Ah, pardon, si, je te jure, tu l'as dit. Du coup, je me demandais de quoi tu parlais.
Donc, je suis fatigué, excusez-moi.
Non, pas de lien.
Hein ?
Du coup.
Si. Oui, non. En fait, c'est pas les collections qui vont se répondre l'une à l'autre, en fait. C'est aux bibliothécaires, après, de faire le lien, justement. Et c'est toute la difficulté. Mais après, le jeu vidéo en tant que tel, en tant que fond, enfin voilà, c'est un objectif en soi aussi. Parce que, voilà, parce que c'est une œuvre, c'est un bien culturel. Et donc, voilà, donc vous pouvez faire le lien. Après, en fait, ce qui se passe dans le cadre d'une animation bibliothèque, c'est qu'on a le joueur, on a le bibliothécaire. Mais après, si on fait appel à des questions de son savoir, etc., on a les ressources de la bibliothèque, en plus, qui viennent se greffer là-dessus. Voilà. Donc, du coup, après, c'est comment... élargir justement et comment intégrer toute cette dynamique-là dans le cadre d'une émission jeux vidéo en bibliothèque. Je ne sais pas si tu as d'autres réflexions à apporter là-dessus. Voilà. Mais donc du coup, voilà, il faut arriver à Après, il ne faut pas se leurrer, le jeu vidéo en bibliothèque, ça ne va pas faire. Ils ne vont pas tous revenir comme par magie et commencer à se mettre à lire Flaubert parce qu'ils auront fait une partie de Mario Kart. Voilà, très clairement. Donc, voilà, il faut oublier ça aussi. Maintenant, effectivement, et c'est Lionel qui a raconté ça, le fait d'avoir justement des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent jouer aux jeux vidéo bibliothèque, enfin voilà, ça les remet aussi, s'ils veulent emprunter ou s'ils veulent pouvoir venir jouer au jeu, ah bah, attention, ta carte elle est plus à jour, tu as autant de livres qui sont en prêt sur ta carte, tu as autant de jours de retard, etc. Et déjà, ça peut aussi permettre de les remettre un petit peu sur des rails et les remettre dans le cadre du fonctionnement normal de la bibliothèque. Enfin, voilà. Donc déjà, il y a ça. Après, nécessairement, ça va attirer un nouveau public, voilà, très clairement. Nous, sur nos ateliers de création de jeux, etc., enfin, voilà, donc ça nous fait venir un nouveau public. Maintenant, après, c'est aux autres bibliothécaires qui sont présents sur la bibliothèque et qui on les renvoie d'arriver à récupérer, à faire monter la sauce derrière.
Juste pour faire écho sur la règle dont tu parlais, hein, c'est dans le cas particulier d'une des bibliothèques de notre réseau qui est située dans un quartier, on va dire difficile, enfin avec une misère sociale assez forte, hein, parce qu'on est l'un des quartiers les plus pauvres entre guillemets de France, hein, donc ce n'est pas rien, avec des enfants qui viennent à la bibliothèque comme un des rares lieux où c'est ouvert, où on peut venir se rencontrer. On a mis du jeu vidéo et on s'est rendu compte que d'une part ça les avait permis de faire franchir le seuil de la bibliothèque à beaucoup beaucoup de jeunes qu'on ne touchait pas ou peu, et ceux qu'on touchait, on se rendait compte des enfants avec lesquels on avait des difficultés pour tout simplement lui dire: est-ce que tu as ta carte, tu as emprunté des livres, tu as du retard, enfin des règles de fonctionnement de la bibliothèque. Le jeu vidéo a ramené ces enfants dans la règle, mais alors d'une manière absolument, on s'y attendait absolument pas du tout, au sens où on lui disait: mais si tu as des livres en retard, tu ne peux pas emprunter des jeux vidéo. On expliquait pourquoi, un jeu vidéo c'est cher, et puis on en a peu, hein, c'est rare, donc si tu le prends et tu le rends plus, c'est tout le monde qui ne peut plus l'avoir, etc. Ça a ramené une grande partie de ces enfants dans la règle grâce à ces jeux vidéo. Ce n'était pas l'objectif, hein, on est bien d'accord, ce n'était pas du tout l'objectif, c'est que ça a ramené tout un lot d'enfants là-dessus. Le lien sur les collections, après le lien sur les collections, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut effectivement faire un travail de passerelle. Là-dessus, le bibliothécaire, c'est intéressant de montrer que, sans être dans leurre, au sens où, comme tu le disais, ça ne va pas, certainement pas faire lire un enfant, un Flaubert, même un Harry Potter, hein, faut être très honnête là-dessus. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de montrer que le bibliothécaire peut faire le lien entre les collections, parce que certes, l'enfant, je pense pour les plus jeunes, emprunte les jeux, mais il a autour de lui des prescripteurs adultes, et les parents, etc. Et là, il y a des manières de pouvoir présenter aussi Harry Potter. Harry Potter, c'est un film, c'est un livre d'abord, c'est un film, ce sont des jeux, et que là, on peut montrer qu'il y a des passerelles possibles autour de tous ces outils-là, et que le bibliothécaire est celui qui peut faire ces passerelles-là. Voilà. Dernier élément, le jeu vidéo dans les pratiques culturelles d'Olivier Donna, hein, on a un bilan tous les 10 ans, je crois, hein, le jeu vidéo est rentré. Hein, il est décrit dans les pratiques culturelles des Français. Pratique culturelle, ça veut donc dire que c'est une culture et que les bibliothèques ne peuvent pas ignorer, parce que le jeu vidéo, ce n'est pas simplement un jeu, c'est aussi toute une littérature, c'est aussi des magazines, ce sont aussi des ouvrages de psychiatres, de philosophes, etc. Et qu'amener le jeu vidéo à la bibliothèque, c'est peut-être amener du jeu de console, c'est peut-être amener de l'animation, mais c'est amener aussi tout ce qui va avec autour du jeu vidéo. Et la bibliothèque peut devenir aussi un lieu de documentation autour du jeu vidéo. Pour le gamer, pour les parents qui se posent des questions, pour peut-être des adultes qui aimeraient, pour des jeunes qui voudraient retrouver l'atlas de tel jeu vidéo, etc. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le jeu vidéo est un moteur de la collection au sens large du terme. Vous avez une question ?
Oui, moi, j'avais juste une question de gestion en fait, pratique des espaces par rapport au public. Alors là, je ne parle pas, bien sûr, des collections de prêts, mais lors de la consultation sur place, comment est-ce que vous organisez les animations? Est-ce que c'est certains jeux? Est-ce qu'il y a la possibilité en fait de jouer, en solitaire ou avec des copains autour? Et donc, comment est-ce que c'est géré par rapport aux autres publics, par rapport des questions de bruit éventuelles, des choses comme ça.
Donc pour le moment, à Cergy, le jeu vidéo se fait sur des créneaux définis pour tout ce qui est la consultation sur place. On a deux endroits dans l'espace où on le fait. On a une salle qui est notre salle d'or du compte, qui est donc un espace fermé, sur lequel on peut se permettre des jeux un peu plus adultes avec un accès réservé, par exemple, accès pour les adolescents de plus de 16 ans, quand on fait des jeux un peu plus matures, mais qui permettent aussi de faire un peu plus de bruit quand on fait les tournois de foot, etc., quand on est à 10 à jouer au foot en même temps sur le même écran, forcément, ça fait du bruit, ça, on ne peut rien y faire. Mais on le fait aussi dans l'espace public. Au milieu des collections, on a 2-3 espaces dédiés qui sont vraiment intégrés dans l'espace public. Là, on est toujours présent, de toute façon, sur ces moments-là. On canalise le bruit de façon le plus... pour que les lycéens qui sont à côté, qui sont en train de réviser le bac... les parents qui sont avec la poussette en train de choisir des albums et les gens qui sont en train de jouer aux jeux vidéo puissent vraiment cohabiter. Et on a également des allers-retours entre les papas et les mamans qui viennent jouer à la console 5 minutes et les lycéens qui font un break pendant leur révision du bac et qui viennent se faire une petite partie pour décompresser. Et on a déjà fait des animations sur des journées entières. Des tournois bibliothécaires contre lecteurs, ce genre de choses. Et à chaque fois, le public a vraiment été réceptif. On a eu peut-être 2-3 lecteurs un petit peu grognons. « Ah, mais le jeu vidéo en bibliothèque, on n'a pas idée, etc. C'est bruyant, c'est pas de la culture. » Et ça nous permettait justement d'engager le débat avec eux, d'engager la discussion. Et généralement, ils repartaient plutôt convertis à notre cause.
Bonjour. Alors... je suis là, si vous me cherchez. Donc, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Lionel, parce que nous, on a mis en place aussi dans une médiathèque, dans ce qu'on appelle une cité. On peut mettre ce qu'on veut derrière, mais c'est un quartier avec beaucoup de difficultés sociales. Hein, on le voit bien quand on fait les études. Et donc, nous, on a proposé une salle de jeux vidéo où les enfants peuvent venir à 4 maximum et ils doivent s'inscrire. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est que, tous les jeunes qui venaient avant, dont on n'avait absolument aucun nom et qui se sentaient absolument rois parce qu'on ne pouvait pas les retrouver, maintenant les oblige à s'inscrire. La carte est gratuite, mais ils doivent s'inscrire pour bénéficier du service. Du coup, on a pu avoir un contact avec les parents et avec eux aussi. Ils savent qu'on connaît leur nom, donc tout de suite, ils sont un peu plus cadrés. L'autre intérêt, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Il n'y a qu'une salle et il faut des fois, ils prennent rendez-vous pour un mois et demi après. Et on s'est rendu compte avec les profs que c'était extrêmement structurant pour eux de prendre rendez-vous, ce n'était pas du tout anodin. Donc ça, c'est un vrai plus. Et la dernière chose, c'est que comme ils ont le droit d'être à 4 et qu'il y a beaucoup de demandes, du coup, ça, on dit créer du lien en médiathèque. Pour le coup, le jeune qui réserve une salle tout seul ou parce qu'ils sont deux, si les autres l'entendent réserver, ils vont lui demander « mais je peux venir avec toi ?» Et du coup, ils se connaissent pas forcément, enfin un petit peu quand même parce que c'est sur le quartier, mais ils n'auraient pas forcément joué ensemble et là, ils vont jouer ensemble. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. L'autre chose que je voulais dire, c'était que pour les bibliothécaires qui se posent la question de la sélection, il y a le code PEGI sur les jeux vidéo qui classe par âge. Et il y a toute une sélection de pictogrammes qui donne une idée du contenu. Donc ça peut au moins permettre de renseigner un usager qui voudrait emprunter un jeu vidéo sur est-ce que c'est pour son enfant ou pas. Par contre, je me demandais, est-ce que vous avez à gérer, sachant qu'il y a plusieurs consoles disponibles, donc plusieurs plateformes, si vous avez un titre que vous avez vraiment envie de mettre en avant et qui est sur plusieurs plateformes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le prenez pour chacune des consoles et PC? Ou vous dites, ben non, je le mets que sur une console parce que j'estime qu'il y a plus de PlayStation que de Xbox sur mon territoire? Voilà.
Là, la question va surtout se poser dans le cadre du prêt, effectivement, du jeu. Après, nous, on ne fait que du jeu sur PC, donc enfin voilà. Je sais pas si.
Alors, c'est pas chez moi, j'en ai pas encore, mais à la médiathèque Pierre Vive donc de Montpellier, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est lié à la BDP de l'Hérault, qui a construit donc un gros bâtiment avec tout un ensemble, donc il y a les archives, les sports et la BDP. Ils ont fait une médiathèque ouverte au public, mais juste en consultation sur place. Et ils ont collé un coin jeu vidéo. Donc ça répond du coup à la question de madame aussi en même temps. Ils ont deux Wii, deux Xbox et je ne sais plus s'ils ont des PlayStation. Donc il y a une console, donc un écran avec la Wii et un autre écran avec la Xbox. Donc du coup ils jonglent sur les deux. Et là, eux, ils ont pris le parti de... c'est donc une heure de temps de jeu, je crois, par jour. Il faudrait revérifier exactement. Et c'est eux qui choisissent les jeux qui sont diffusés. Donc, ils prennent un jeu plus grand public sur la Wii U, par exemple, et des jeux qui s'adressent peut-être à des publics un petit peu plus adolescents pour la Xbox. Et pareil, ils se situent dans un quartier, La Mosson, qui n'est pas forcément un quartier... enfin, pareil, comme tu disais, un quartier type cité. Voilà.
Juste après, pour revenir sur la question des espaces, effectivement, on parle des joueurs qui font du bruit, mais faut pas oublier aussi que les joueurs n'aiment pas trop être dérangés non plus. Il y a certains jeux qui demandent du calme, etc. Et des fois, en fait, le joueur n'aime pas être dérangé. Donc, le public peut aussi faire du bruit. Enfin, voilà, ça va dans les deux sens. Quoi. C'est juste pour rappeler ça aussi.
Moi, j'aurais voulu dire... donc je suis à Rive-de-Gier, donc une médiathèque dans la Loire, où on fonctionne avec un EPN qui est intégré dans la médiathèque, donc avec des animateurs multimédia qui travaillent avec les bibliothécaires. On partage les permanences sur les salles lors des créneaux d'accès libre. Donc évidemment, il y a des jours, le mercredi, le samedi, où on favorise le jeu, où il y a du jeu en réseau, il y a 9 postes qui peuvent, ils peuvent venir. Investir la salle. Il y a aussi une salle qui est normalement une salle de formation, mais qu'on met à disposition sur certains créneaux pour faire des tournois, des choses comme ça. Et à partir de là, effectivement, donc on a un public adolescent dans une ville qui est pas, il n'y a pas de cité, mais c'est la ville tout entière qui est économiquement dévastée, on va dire, depuis pas mal d'années. Donc on a ce public adolescent et ça a réussi à fédérer des ados qui se sont pris en main, qui sont eux-mêmes montés en association autour du jeu. Et maintenant, c'est eux en fait qui sont nos référents pour organiser, par exemple, on fait des tournois de PES. C'est eux qui organisent le tournoi, c'est eux qui gèrent leurs copains en fait, qui posent le cadre. Et on essaye au maximum de fonctionner comme ça en pair à pair. On le fait aussi sur la formation. Les gens qui ont suivi des cursus de formation font après, on les met en wiki, quoi, et c'est eux qui fonctionnent avec d'autres gens. Et ce que je voulais dire, c'est que le jeu vidéo, c'est une partie en fait, de ce qu'on propose en jeu. Et on fonctionne en partenariat avec la ludothèque. Et on fait, dernièrement, il y avait la fête du jeu. Donc là, on fait des nocturnes, donc il y a du jeu vidéo. Mais il y a aussi des jeux de plateau, d'autres jeux physiques. Quoi. Et ça nous permet surtout de mixer en fait, tous les publics, de faire jouer ensemble, adultes, enfants, les bibliothécaires contre les joueurs. Et alors, le lien à la collection, il peut être compliqué, mais par contre, c'est un lien à l'animation, puisqu'on sait qu'on a là un réservoir d'un public ado, jeune, et que quand on propose des animations en journée, on va les chercher, on leur dit « Allez voir là-bas, il y a des trucs qui se passent, parce que bah, ils font la queue, ils attendent, etc. » Et le lien avec le reste du bâtiment... Il se fait là et du coup ça provoque une circulation. Voilà, pour rebondir là-dessus.
Oui, effectivement, on parle beaucoup de jeux vidéo, mais enfin la démarche est exactement la même avec du jeu de plateau. Enfin, il y a pas de, on parle de jeu. Enfin, les mécaniques de jeu, il y a pas mal d'adaptations de jeux de plateau en jeu numérique. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment des expériences de jeu. On parlait des jeux de savoir. Ben voilà, le Trivial Pursuit, on peut tout à fait avoir les mêmes objectifs d'animation et finalement proposer le même type d'expérience de jeu qu'avec un buzz sur PlayStation 3 avec des buzzers. Donc la logique est la même. Donc il ne faut pas se limiter aux jeux vidéo, même si moi j'ai préférence pour ça, mais vous avez aussi plein de jeux qui sont très intéressants également. Après, juste pour revenir également sur... merci Angie, tu m'as fait penser sur la notion de transmédia également. Enfin, vous avez des univers qui se déclinent après, effectivement. Vous avez des univers qui se déclinent sur à la fois en comics... en jeux vidéo, etc. Donc voilà, c'est aussi des pistes à explorer. Et souvent, enfin, je pense par exemple à des séries comme Assassin's Creed où en fait on va compléter l'univers justement du jeu vidéo à travers des bandes dessinées qui sont... Après, la qualité, ça dépend vraiment des séries. Hein. Mais du coup, ouais, enfin, voilà, vous pouvez aussi explorer un petit peu tous ces univers-là. Voilà.
Ça marche dans les deux sens, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Lionel avec Harry Potter. C'est un livre qui est décliné en film, et il y a aussi des compléments qui arrivent dans les jeux vidéo. Donc ça marche pas que du jeu vidéo vers les autres, ça marche aussi dans l'autre sens.
On attaque vite fait. 10 minutes. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, si, une dernière question.
Oui. Oui, bonjour. Ce n'est pas forcément une petite question, c'est plus une petite précision, puisqu'on a évoqué la classification PEGI.
Oui.
Je dirais que notre intermédiaire est important là aussi, parce que la classification, ça donne un âge à partir duquel le jeu n'est pas dangereux pour l'enfant ou l'adulte. Typiquement, tous les jeux de sport sont en général accessibles à partir de 3 ans. Même si les enfants sont très doués à cet âge-là, devant un FIFA 2012, à 3 ans, ils ne pourront pas jouer. Donc là aussi, notre intermédiaire de bibliothécaire et de médiation est très important avec le public, parce que voilà, l'indication ne fait pas tout, et on a vraiment besoin aussi de les renseigner par rapport à ça.
Oui, tout à fait. Hein. Vous ne basez surtout pas sur la classification PEGI pour faire vos acquisitions. Hein. Par exemple, la dernière fois que je regardais, c'était sur la série des professeurs Layton. Donc c'est des jeux d'aventure avec plein d'énigmes, etc. Vous avez le pictogramme violence qui apparaît sur Professeur Layton. Mais ça n'a rien de violent au sens d'un jeu de combat, Professeur Layton. Hein. Donc voilà, mais c'est parce qu'à un moment, vous devez avoir une ou deux scènes de bagarre, mais il n'y a rien de violent dans ce jeu-là. Donc voilà, donc faites très attention à ça. C'est juste effectivement une petite indication, mais bon, à prendre avec des pincettes. Oui. Oui. Et la joie par les livres également hein, publie régulièrement des critiques de jeux vidéo. Donc vous pouvez également taper là-dedans. Voilà. Bon, je crois qu'on n'aura pas le temps de jouer, en fait.
Donatien Patard, médiathèque de Gonesse, en Val d'Oise. Je voulais juste poser une question par rapport, toujours dans le lien des collections, qu'en est-il, en fait, des bandes sonores au niveau des jeux vidéo ? Oui. Est-ce qu'il y a une production importante ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire un lien, justement, par rapport à ça ?
Tu veux répondre ?
Alors, pour répondre au niveau des bandes originales de jeux vidéo, elles existent. Malheureusement, la plupart du temps, elles sont disponibles soit en téléchargement sur le site du studio, sur le site du créateur, soit disponibles uniquement aux États-Unis ou au Japon. Il y a certains fournisseurs, j'ai travaillé notamment avec GAM, qui proposent certains CD en import, ou sinon, il faut leur faire la demande, mais c'est assez difficile, c'est relativement cher, ça existe. On a eu en France à une époque une série de concerts symphoniques qui s'appelle Video Games Live, et il y avait eu des CD qui étaient sortis à cette époque, donc il y en a encore quelques-uns qui circulent, donc des reprises version symphonique de plusieurs morceaux de musique de jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on va trouver de la musique de jeu en téléchargement.
Merci.
Après, pour le lien avec la musique, après vous avez tout ce qui est jeu rythmique, enfin voilà, jeu type Guitar Hero, des choses comme ça, ou Dance Revolution. On avait fait venir l'association MO5 justement pour ce côté-là aussi. Enfin voilà, donc là aussi. Après, voilà, vous pouvez aussi vous rapprocher de ces associations-là qui ont vraiment une grande connaissance du monde vidéoludique et qui seront aussi à même de vous sortir des titres de jeux qui pourront répondre. Enfin, voilà, à vos objectifs.
Et je rappelle que pour toute question, vous avez la page Facebook Jeux vidéo en bibliothèque. On est nombreux, non seulement des membres de l'ABF, mais aussi des bibliothécaires, à répondre à toutes les questions et à participer à des débats sur le jeu vidéo en bibliothèque ou le jeu en règle générale.
Florence Carr, Mediabib 91, Association des bibliothèques de l'Essonne. Moi, en fait, alors je ne savais pas hein, qu'il allait y avoir votre session sur les jeux vidéo, mais c'est intéressant parce que du coup, en fait, aux Ulysses, moi, j'ai rencontré le principal d'un des deux collèges de la ville la semaine dernière. Parce que moi, j'aimerais bien que le jeu vidéo qui a lieu dans nos murs, bah, on puisse le faire connaître à des publics les plus larges possibles et de pouvoir l'exporter quelque part. Donc, j'en ai parlé au principal. Et sa réaction a été une réaction très effrayée. C'est « Oh, mon Dieu, mais vous n'y pensez pas. Moi, surtout pas le jeu vidéo. Moi, j'ai des élèves qui sont complètement accros au jeu vidéo, qui sont dépendants. Donc, à la limite, il m'a fait comprendre que je pouvais bosser sur n'importe quel sujet avec lui, mais surtout pas les jeux vidéo. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir arriver à le convaincre, à mener une action. Alors, je me suis dit, peut-être faire un peu de pédagogie, justement amener les élèves à découvrir d'autres jeux vidéo, mais Julien va me donner des pistes.
C'est ma chef. Il y a plusieurs choses. Donc, on a les jeux vidéo type ludique, etc. Après, on parle de jeux vidéo, les serious games. Voilà. Donc là, il y a un objectif pédagogique, de formation, etc. Et ça, c'est sérieux. Ça, on peut y aller. Bon, après, il y a des serious games qui sont chiants parce que, tout simplement, on a oublié le côté fun. Il ne faut pas oublier le côté jeu, en fait, dans un serious game. Et si vous oubliez la partie fun, ben, ça ne fonctionne plus, ce n'est plus un jeu. Voilà. Au mieux, c'est un didacticiel, mais ça va s'arrêter là. Et après, en fait, il y a une troisième voie, c'est le fait de prendre des jeux classiques et d'y jouer sérieusement. Et typiquement, un jeu vidéo comme Minecraft, ça nous permet ce genre d'utilisation. Parce qu'on a un jeu qui est utilisé par une large communauté. Enfin, Minecraft, c'est, Guillaume vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est 1 million de ventes. Enfin, c'est 100 millions de ventes. Vous avez une communauté très, très importante. Le créateur a su vraiment fédérer et animer sa communauté. Donc, nous, on a plein de jeunes qui jouent à ce jeu-là. Enfin, voilà, on n'a pas eu besoin de... On s'est vraiment appuyé sur cette communauté de joueurs-là. Et après, on a monté notre club, le club Minecraft à la médiathèque. Et à partir de là, on a pu faire monter ça. Donc après, Minecraft, on imprime en 3D, etc. Mais voilà, on utilise un jeu classique pour y jouer sérieusement et pour faire d'autres créations derrière. Après, vous avez tout ce qui est création de jeux vidéo, comme on l'avait fait au collège de Mondétour. Hein, voilà, c'est ça. Où là, on avait travaillé avec la professeure d'art plastique, où on avait emmené donc des ordinateurs portables au collège et avec les élèves. Donc, on avait fait des ateliers de création de jeux vidéo. Et au cours de ces ateliers de création de jeux vidéo, donc un atelier de création de jeux vidéo, c'est très complet hein, comme activité. Il faut travailler votre scénario, il faut travailler les graphismes, il faut travailler la bande son, il faut travailler le gameplay, la mécanique de jeu. Et donc, c'est un projet qui est assez ambitieux. La médiathèque de Chevilly-Larue, ils ont fait ça également. Enfin, voilà. Mais après, dans pas mal de médiathèques et dans pas mal d'espaces publics numériques, c'est, le jeu vidéo comme outil de création, c'est quelque chose qui est largement utilisé. Hein. Et après, le fait de pouvoir, donc, du coup, quand on travaille un peu les mécaniques de jeu, etc., c'est l'occasion justement d'interroger les jeunes sur leur pratique du jeu vidéo, sur leur culture vidéoludique. Ah ben tiens, tu ne connais pas cette mécanique de jeu, mais si, c'est dans tel jeu, on la retrouve dans tel jeu, dans tel jeu. Après, quand on travaille sur les caractéristiques des personnages, ah bah tiens, là c'est un garçon, donc lui il va être plus fort que le personnage féminin. Mais pourquoi le personnage féminin va être plus faible que le personnage masculin? Alors, du coup, voilà, on travaille, mais oui, mais les filles, c'est toujours dans les jeux vidéo, elles sont moins fortes. Bah oui, mais vous avez certains jeux comme Metroid, comme Tomb Raider, où on a des personnages féminins qui sont aussi puissants que les personnages masculins. Enfin voilà. Donc, du coup, après, c'est arrivé à travailler tout ça. Mais effectivement, après, en collège, se pointer et dire, hey, on va jouer à FIFA. Parce que voilà, ce qu'ils ont en tête, c'est des jeux comme Call of Duty, c'est des jeux comme FIFA, enfin voilà, c'est ça qu'ils ont en tête. Donc après, effectivement, il faut arriver à présenter, soit on utilise le jeu vidéo pour jouer sérieusement, après, l'autre angle d'attaque, ça pourrait être l'angle plutôt artistique et proposer, enfin voilà. Alors après, là, c'est autre chose. Là, c'est un peu plus éloigné de mes compétences. Moi, je suis moins spécialiste là-dedans. Moi, c'est plus sur la partie animation, jouer sérieusement. Mais vous avez des gens comme Oscar Barda, la Gaîté Lyrique, qui eux, voilà, c'est vraiment ça leur mission. Et c'est autour du jeu vidéo en tant qu'art, en tant qu'œuvre d'art. Voilà, ils arrivent à mener aussi des actions sur ces thématiques-là. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est bon, ça va.
Pour compléter sur les différentes utilisations du jeu pour sortir un peu des cadres, il y a tout ce qui s'appelle les machinima. C'est prendre des morceaux de jeu, donc des morceaux de cinématiques, et s'en servir comme élément pour créer un film d'animation. Donc il y a des logiciels qui existent qui permettent de sortir du jeu certains moments clés, un personnage qui se déplace, un personnage qui qui dit quelque chose, et de faire un véritable travail de réalisateur en faisant de l'animation, donc soit en image par image, soit avec des morceaux qu'on va coller comme ça à la suite. Donc il y a vraiment possibilité de détourner le jeu vidéo de son aspect premier pour en faire, soit pour en créer de nouveau, soit pour faire à partir de ça, donc on veut créer un film, ou pourquoi pas, on a une séquence de jeu, on va demander aux participants, eh ben, tenez, vous allez essayer de raconter l'histoire telle qu'elle se passe dans la tête de tel personnage, voilà.
Oui, bonjour, Grégory Mariani, médiathèque de Martigues, les Bouches-du-Rhône. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que la collègue avançait par rapport au fait de rassurer un peu le principal ou ce genre de partenaire. C'est que nous, à Martigues, on fait du jeu vidéo aussi, et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est notamment de faire intervenir un psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Michael Stora. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à lui, il est vraiment super, et on avait fait une journée sur c'était quoi l'intitulé déjà, le jeu vidéo est-il dangereux pour nos enfants, voilà. Donc il est venu, il a rassuré tout le monde en parlant aussi de FPS, hein, en parlant de Counter-Strike ou ce genre de jeu où les parents peuvent être affolés en se disant mais mes enfants ils vont flinguer à tout va, ou ce genre de choses. Lui, il a beaucoup d'expérience là-dessus. Il a reçu des patients. Il a travaillé là-dessus. Et on avait travaillé également avec une association d'addiction, contre les addictions. Donc, en faisant intervenir ce genre de personnes à la médiathèque, on a rassuré et les parents et les partenaires, si ça peut vous aider.
Après, il y a également des gens comme Vanessa Lalo, Yann Leroux également, enfin, voilà, qui sont aussi d'autres types d'intervenants. Qui sont très bien.
Non, je tiens à préciser que je touche rien là-dessus. Sur Michael Stora me donne rien, mais c'est juste parce que on l'a fait venir.
Non, c'était juste pour donner d'autres pistes également. Je crois qu'on a fini dans la partie. Si vous avez encore une autre question, je suis désolé, on n'aura pas le temps de jouer, mais si vous voulez voir le jeu qu'on voulait vous présenter, vous pouvez passer au stand hybride. Mais là, il va falloir qu'on arrête, ça fait une heure. Une dernière question peut-être ? Non ? Oui, une dernière question, juste là. Attends.
Juste une question sur Minecraft que je ne connais pas très bien. C'est quoi les possibilités par rapport à l'autre question de faire des animations Minecraft sur de la durée ? Est-ce que c'est possible de faire intervenir, par exemple, on l'a vu sur d'autres types d'animations, des groupes de gamins différents qui seraient sur la même interface ou... Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des expériences là-dessus ? Parce que ça me paraît plutôt intéressant.
En fait, Minecraft, ça joue en multijoueur, donc on est tous dans le même univers. Alors après, vous avez des expériences. En fait, dans Minecraft, il n'y a aucune limite. C'est comme une énorme caisse de Lego. Vous placez des cubes de différentes couleurs. Chaque cube correspond à un matériau. Et puis après, on peut extraire les matériaux, les combiner, créer d'autres matériaux. Donc voilà, typiquement, vous taillez, vous creusez... Vous coupez un arbre, vous récupérez du bois, vous créez des planches. Avec les planches, vous allez vous créer une pelle. Vous allez pouvoir creuser plus vite, etc. etc. Et après, on peut même jusqu'à aller créer des circuits logiques également dans Minecraft. Donc après, si vous tapez Minecraft dans YouTube, vous allez voir toutes sortes de réalisations. Des gens qui ont même créé un ordinateur dans Minecraft. Enfin, voilà, on peut aller très très loin. Donc après, nous, on utilise en mode surtout création. Donc après, voilà, ils reviennent de semaine en semaine et puis ils poursuivent la création qu'ils ont entamée. Voilà, donc ça, c'est une utilisation possible. Après, vous avez également la possibilité de créer ce qu'on appelle des cartes aventures, donc créer des histoires à l'intérieur de Minecraft, voilà, pour qu'après, d'autres joueurs viennent y jouer également. Enfin voilà, donc après, vous avez tout ce genre d'utilisation. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Enfin voilà.
Juste sur un aspect création par rapport à Minecraft, moi, l'exemple qui m'avait le plus frappé, c'était un... Il s'est amusé, il a dit, tiens, je vais construire le Colisée de Rome à l'échelle, donc à l'échelle du jeu. Donc il s'est amusé, il l'a construit, puis il a dit, ouais, mais le Colisée, là, tout seul au milieu, il ressemble à rien, il fait un peu minable. Bon, bah, je vais construire la Rome antique à côté. Et de fil en aiguille, il a reconstruit une version de la Rome antique. Il s'est amusé tout seul. Ça lui a pris 6 semaines, je crois, un truc comme ça. Travail de malade, mais il l'a reconstruit à l'échelle. Donc t'as le petit personnage, puis t'as tous les bâtiments à côté, autour. Voilà. Et tu peux arriver à t'amuser à faire ce genre de choses... Voilà, un exemple d'animation.
Et après, on vient de me rappeler, mais effectivement, après, sur le groupe Facebook Jeux vidéo en bibliothèque, c'est aussi un lieu de rencontre pour des bibliothèques qui voudraient jouer à distance, comme les médiathèques de Locminé. Voilà, permettre justement à différentes bibliothèques, il y a différents groupes de jeunes à distance, de pouvoir jouer ensemble sur le même serveur. Voilà. Un peu comme ça s'était fait avec l'expérience de Dofus à Saint-Raphaël, où vous aviez l'équipe de Saint-Raphaël qui rencontrait des équipes d'autres bibliothèques à travers la France.
Juste, désolé, c'est un peu technique, mais je comprends pas tout. Donc, tout le monde joue dans le même monde, mais est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce qu'on crée des mondes au sein des bibliothèques ?
Non, en fait, on crée chacun... On peut créer des mondes privés, entre guillemets. Hein. C'est, après, c'est des serveurs que vous installez, donc...
Donc, par exemple, on peut créer un monde pour une communauté d'agglo.
Oui, voilà, par exemple. Ouais.
Tu pourrais reconstruire la communauté d'agglo.
Voilà, on peut recréer...
Par exemple.
Bon, eh ben, merci à tous d'être venus. Désolé. Ouais, merci.